Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, l'Allemagne est-elle démunie face à l'extrême droite ? Les organisateurs n'en espéraient pas tant. 50 000 personnes ont assisté à un concert contre la xénophobie hier soir à Chemnitz, dans l'est de l'Allemagne. Alors certes, le concert était gratuit, mais cela n'enlève rien à la démonstration de force proposée par le public en réaction aux manifestations, parfois violentes, organisées depuis plusieurs jours dans la ville par l'extrême droite. C'est la mort d'un homme tué quelques jours plus tôt de plusieurs coups de couteau qui a servi d'élément déclencheur. Le principal suspect est un demandeur d'asile irakien. Preuve, selon l'AFD, de la dangerosité des immigrés. L'AFD, c'est l'Alternative for Deutschland, qui s'était déjà emparé d'ailleurs d'un autre fait divers il y a quelques mois, cette fois dans l'ouest du pays, pour dénoncer là encore la présence des migrants sur le sol allemand. Or, il faut dire que le sujet est particulièrement inflammable en Allemagne. Il y a un an, suite à une campagne dénonçant la politique migratoire menée par Angela Merkel, l'AFD faisait son entrée au Bundestag, le Parlement allemand, une première pour l'extrême droite depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Depuis, il semblerait qu'un tabou a été levé. L'Allemagne se découvre plus xénophobe qu'elle n'imaginait l'être. D'où sans doute la difficulté pour une partie de la classe politique à trouver la réponse adéquate pour endiguer cette irrésistible progression. Alors l'Allemagne est-elle démunie face à l'extrême droite ? C'est le sujet du soir, en compagnie de trois invités. Nelle Wiesmann, bonsoir.
Bonsoir, guten Abend.
Vous êtes chercheuse associée à l'IFRI, germanophone, on peut le deviner. Institut français des relations internationales pour l'IFRI. Vous travaillez sur l'immigration, l'intégration et l'islam en Allemagne. Vous avez publié aux éditions du Septentrion, c'était l'an dernier, l'Allemagne change, risque et défi d'une mutation. Pour discuter avec vous, Johann Chapoutot, bonsoir.
Bonsoir.
Historien, spécialiste notamment de l'histoire du nazisme. Vous êtes professeur à l'université Paris-Sorbonne. Vous avez notamment publié dans la collection Que sais-je au PUF, Histoire de l'Allemagne 1806 à nos jours. Et puis notre troisième invité se trouve à Berlin. Il s'agit de Nathalie Versieux. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, on vous a souvent entendu hein, sur les ondes de Radio France. Vous êtes aujourd'hui la correspondante en Allemagne pour le journal Le Temps, journal suisse, pour lequel vous vous êtes rendue à Chemnitz pour couvrir certaines des manifestations. Et dans les articles que vous avez publiés, Nathalie Versieux, vous parlez notamment d'une ville au bord de la crise de nerfs, d'un déferlement de colère. Cette colère, elle est d'abord dirigée contre qui ? Est-ce qu'elle est d'abord dirigée contre les étrangers ou d'abord contre les politiques ?
D'abord contre les politiques. Quand on parle avec les gens, on a vraiment l'impression qu'ils sont excédés, qu'ils n'ont absolument pas du tout confiance dans la politique. Il faut voir que quand on parle à des Allemands de l'Est, ils ont encore pour beaucoup, en tout cas ceux qui ont plus de 40 ans, le réflexe de penser que c'est l'État qui va régler leurs problèmes, que ce soit des problèmes de logement, des problèmes de travail, des problèmes de sécurité. Donc ils ont facilement le sentiment que l'État ne les soutient pas, n'est pas de leur côté. Et puis, comme me le disait un député que j'ai rencontré dans ces manifestations, qui était un député du Parlement régional de Saxe, un membre de la CDU, qui était sur le bord du trottoir avec sa petite pancarte disant Chemnitz n'est ni brune ni grise. Et donc, lui disait, mais d'où est-ce que ces habitants pourraient avoir confiance dans le système politique puisque pendant 30 années de communisme, ils ont appris à se méfier des institutions. Avant, il y a eu le nazisme et depuis la réunification, les gens ont connu de tels chamboulements dans leur vie, aussi bien sur le plan privé que économique. Beaucoup ont connu le chômage, il y a eu énormément de divorces après la chute du mur. Des gens qui sont un peu perdus, sans repère et donc en colère après la politique. En ce qui concerne leur colère envers les étrangers, ça c'est beaucoup plus irrationnel, parce que les gens vont vous dire, ils marchent dans la rue de façon arrogante, ils embêtent les filles, et puis après ça, ils ajoutent, mais enfin bon, moi là où j'habite, non, il n'y a pas de problème, il n'y en a pas, il y en a très peu. Dans mon village, il n'y a pas du tout d'étrangers, mais ils ont quand même un sentiment d'insécurité irrationnel.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'en Saxe, qui est un des Länders allemands, le taux d'immigrés est plutôt inférieur même à la moyenne nationale. Nelle Wiesmann, ce qui surprend évidemment avec ces manifestations qui ne sont pas inédites, c'est leur ampleur et c'est peut-être aussi le moment où elles ont lieu, c'est-à-dire à un moment donné où en Allemagne, on est quand même assez loin de ce qu'aura été, alors je ne sais pas si ça a été vécu à l'époque, en 2015 en tout cas, comme une crise, mais enfin en tout cas un afflux massif de réfugiés, là on peut vraiment le dire, parce qu'il y a quand même près d'un million de personnes qui sont arrivées dans le pays. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage entre ce moment-là qui est quand même systématiquement visé, notamment par l'AFD, ce parti d'extrême droite, en disant bah voilà, c'est la politique migratoire d'Angela Merkel qui crée tous ces problèmes, et le fait qu'il faille attendre septembre 2018 pour que cette colère semble partir de tous côtés?
Je pense que vous venez de dire quelque chose d'extrêmement important. Donc justement, c'est pas inédit. Donc c'est-à-dire qu'on avait plusieurs événements. Je rappelle notamment Heide Now, le moment où le président fédéral de l'époque, Joachim Gauck, parle d'une Allemagne de lumière, une Allemagne sombre. Donc justement, il dit que la société est divisée aujourd'hui. Des personnes qui sont plutôt là pour accueillir les réfugiés, et d'autres qui disent justement qu'on veut pas qu'on veut pas accueillir. Donc il y a un décalage entre guillemets. Parce qu'on sait aujourd'hui que le nombre de réfugiés est en pleine baisse, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut plus parler d'une crise. À l'époque, on parlait de l'ouverture de la frontière par Angela Merkel. Aujourd'hui, on sait aussi, d'ailleurs, il y a tout un débat actuellement en Allemagne où l'AFD est justement avoué qu'ils ont marqué ce débat et que eux, ils ont placé ce terme ouverture de frontière, or que de fait Angela Merkel, elle n'a pas ouvert le frontière, elle n'a pas fermé, et c'est qu'elle avait tout à fait raison de le faire à l'époque.
Mais est-ce qu'on peut justement considérer que l'AFD a été assez habile politiquement pour récupérer un certain nombre de faits divers et en faire des problèmes liés à la question migratoire? J'évoquais cet autre fait divers qui avait là été aussi utilisé par cette formation politique, qui s'est soldé hier d'ailleurs par un verdict. C'était un homme qui était un demandeur d'asile, on ne savait pas très bien de quelle nationalité, qui a assassiné sa petite amie, qui a été condamné il y a 8 ans et demi de prison ferme. Là aussi, l'AFD avait considéré que c'était le signe que tous les migrants sont dangereux, en gros.
En gros, c'est ça, en fait. L'AFD, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un parti qui est assez monothématique, c'est-à-dire que tout se base aujourd'hui sur le réfugié. Et là, ils ont justement un point commun avec les néo-nazis, les autres groupements d'extrême droite, où finalement, ils se rassemblent. Ce week-end, justement, l'AFD a manifesté ensemble avec Pegida, donc le mouvement européen patriote pour contre l'islamisation de l'Occident. Donc c'est monothématique finalement aujourd'hui qui marque fortement l'extrême droite en Allemagne.
Est-ce que ça permet de dire, Joanne Chapoutot, que ces manifestations sont des manifestations d'extrême droite? Alors oui, elles sont organisées par l'AFD. Le mouvement Pegida anti-islam les rejoint. On y croise aussi des néo-nazis. Mais semble-t-il, ça va quand même au-delà des seuls sympathisants de l'extrême droite.
Oui, je pense qu'il y a un mouvement océanique de fond dans cette ex-Allemagne de l'Est. Nathalie Versieux disait des choses très pertinentes tout à l'heure. Il faut reprendre ça dans une perspective historique de moyen terme et voir que les Allemands de l'Est aujourd'hui, même si la réunification date déjà de quelques décennies, les Allemands de l'Est aujourd'hui se considèrent souvent comme, le mot est acté en allemand, des « Wende Verlierer », c'est-à-dire des perdants de la veine, des perdants du tournant, des perdants de la mutation qui amenait à la réunification. Ce sont des gens qui sont littéralement, au sens littéral, dépaysés, qui ont perdu leur pays, et on observe à l'Est un phénomène de hostalgie, de nostalgie de l'Est. Des souvenirs heureux de ce qu'on appelle volontiers en Allemagne de l'Est « unsere kleine République », notre petite république, la RDA. Et ils ont perdu ce pays, ils ont perdu des statuts sociaux. On est passé d'une société du statut à une société du contrat, beaucoup plus labile, beaucoup plus fluide et beaucoup plus angoissante aussi. Et désormais, après avoir bradé leur jeunesse, après avoir bradé leur pays, après les avoir plongés dans un contexte politique et social où le chômage est massif, on atteint 25% de chômage des jeunes dans des régions comme Chemnitz ou comme le Brandebourg notamment, on leur dissout l'Allemagne. C'est un petit peu le sentiment que des classes moyennes ou des classes défavorisées ont d'être des grands perdants de l'histoire encore et encore. Et tout cela s'exprime aujourd'hui par ce sentiment qui est résumé par ce mot allemand très puissant, dit Wut, la hargne, la colère, la rage contre des élites qui sont accusées de dissoudre l'Occident et de dissoudre l'Allemagne.
Donc il y a ce sentiment d'être délaissé pour compte. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un certain nombre de tabous qui existé, ou en tout cas qui existent toujours du côté ouest de l'Allemagne, qui sont peut-être, et qui étaient peut-être en tout cas moins présents du côté de l'est de l'Allemagne. J'en veux pour preuve, par exemple, alors ça n'est qu'un témoignage, mais qui est sans doute assez significatif, que vous avez relevé dans un de vos reportages, Nathalie Versieux. Vous parlez d'une mère de famille, alors qui vous explique qu'elle en a marre qu'on la traite de nazie parce qu'elle participe aux manifestations, mais tout en disant, mais après tout, où est le problème? Nazi, ça veut dire national-socialiste. Je suis national puisque j'aime mon pays et je suis socialiste, donc il n'y a pas de problème.
Oui, effectivement. Donc ça, c'est vraiment un témoignage qui m'a, je dois dire, assez cloué sur place, parce que c'est vrai que à l'ouest du pays, cette mère de famille, elle n'aurait jamais pu prononcer un discours pareil. C'était une là vraiment, on peut dire, un citoyen ordinaire. Et j'en ai vu encore beaucoup samedi dans la manifestation qui a eu lieu samedi après-midi à Chemnitz. J'ai rencontré un homme plutôt intellectuel qui votait pour les Verts. Et puis qui m'a raconté que le jour où il s'est aperçu que les autres pays européens ne vont jamais accepter de recevoir des réfugiés chez eux, mais il est passé à l'AFD. J'ai rencontré un artiste, alors vraiment quelqu'un qui portait une barbe tressée avec un pantalon en cuir noir, dont on dirait plutôt à Berlin par exemple, ce serait quelqu'un typiquement qui voterait pour le SPD ou pour Die Linke, pour les néo communiste et qui votait avant pour le SPD, passait à l'AFD, ou encore un chef d'entreprise, enfin quelqu'un qui travaille dans les assurances, qui est venu en costume cravate à cette manifestation, comme le demandait l'AFD, et qui avant votait pour les libéraux, le parti FDP. Donc les gens tiennent un discours qui est vraiment pas imaginable à l'Ouest, et on se rend compte aussi que ces gens n'ont pas de tradition politique familiale qui est forcément explicable par leur histoire. À l'Ouest, on rencontre quand même encore des familles où on vote SPD de génération en génération ou de CDU de génération en génération. Et là, à l'Est, on a l'impression que les gens passent vraiment beaucoup plus facilement d'un extrême à gauche à l'autre, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Enfin, c'est assez stupéfiant quand on parle avec les gens.
Justement, Nélodie Wiessmann et Joanne Chapoutot, comment est-ce qu'on explique qu'à l'Est, il y ait peut-être moins de tabous par rapport à l'extrême droite? Est-ce que ça veut dire que lorsque l'Allemagne a été divisée en deux, la question de la dénazification n'a pas du tout été envisagée de la même manière, selon qu'on était en RDA ou en RFA? Nélodie Wiessmann.
Tout d'abord, peut-être un tout petit constat. Je pense aujourd'hui, il est très important à tout prix d'éviter de stigmatiser, de généraliser, donc de dire aujourd'hui que l'extrême droite c'est uniquement un problème en Allemagne de l'Est, parce que l'extrême
droite. La preuve, les scores aux dernières législatives, c'était pas uniquement les Allemands.
On aura des élections en Bavière où on sait aujourd'hui aussi que l'AFD va pas mal percer. Mais bien évidemment, Pegida, c'est un mouvement qui a commencé à Dresde et la plupart des attaques contre le centre d'accueil de réfugiés ont lieu en Allemagne de l'Est, bien évidemment. Mais je pense qu'il faut quand même éviter de stigmatiser, parce que justement, c'est ça, quand on parle aujourd'hui avec les gens à Chemnitz qui disent, regardez, tous les Allemands de l'Ouest nous disent aujourd'hui, on est des nazis. Donc, on manifeste parce que de toute façon, les Allemands de l'Ouest vont nous percevoir comme nazis. Et ça, je pense qu'il faut éviter à tout prix, notamment parce que, et là, je pense que c'est notre historien qui va beaucoup mieux pouvoir expliquer, que l'extrême droite, quand même, c'est quelque chose qui se implantait en Allemagne de l'Est, notamment après la réunification, donc il est venu quand même avec le NPD, qui tout de suite a su profiter de la réunification et justement de cette instabilité en Allemagne de l'Est pour venir et pour dire, voilà, on vous propose un autre modèle.
Alors sans faire bien sûr, et de l'Ouest un rempart contre l'extrême droite et de l'Est un foyer de l'extrême droite, on verra peut-être d'ailleurs sans doute un peu plus tard dans l'émission qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas d'un point de vue historique, Joanne Chapoutot, comment est-ce qu'on peut expliquer en tout cas l'approche différente qui a été celle de l'Ouest et de l'Est sur la question du nazisme?
Ah, mais votre question est tout à fait pertinente. Il y a eu une dénazification un peu asymétrique, si vous voulez, entre l'Est et l'Ouest. Pour schématiser grossièrement, à l'Ouest, on a laissé en place les élites nazies, qui n'ont quasiment pas bougé à quelques exceptions près un peu spectaculaires. Mais on a essayé de travailler, ça a pris du temps, ça a pris des décennies. Je pense que la dénazification atteint sa vitesse de croisière dans les années 70 au moment du mouvement étudiant et terroriste, si vous voulez. Alors qu'à l'Est, ça a été totalement différent. À l'Est, on a ratiboisé les élites, on a éliminé les élites nazies. pour des raisons idéologiques et pratiques très simples, hein, c'est que les élites communistes qui reviennent de Moscou en 1945-49 ont eu face à eux des élites nazies qu'ils veulent éliminer. Et par contre, on épargne le peuple, là aussi pour des raisons idéologiques, au motif que la population allemande, des paysans et des ouvriers, aurait été immune au fascisme, hein, on parle de fascisme d'ailleurs et non pas de nazisme en Allemagne de l'Est, et puisque le peuple par définition est bon. Je caricature de manière outrancière, mais c'est un peu pour vous dire en quoi consiste cette asymétrie-là.
Donc il n'y a pas de travail, comment dire, d'introspection.
Non, dans la mesure, alors à l'Ouest il n'a pas été énorme, hein, ce travail d'introspection, je vous rassure, il a été plus mené à partir des années 70 sous l'influence du mouvement étudiant, c'est-à-dire sous l'influence de la révolte d'une génération, la génération des enfants, contre la génération des pères, en l'occurrence, plus que des mères, des pères, dont on apprenait peu à peu, au gré des chapardages et des visites dans les greniers, dans les caves, qu'ils avaient eu un passé douteux. Mais en tout cas, à l'Est, très clairement, pour une raison idéologique et une raison aussi de pragmatisme politique, on estime que le prolétariat est resté immune au fascisme, dit-on. Voilà. Ça aboutit à une forme de permafrost politique. On gèle un peu la situation, qui va se dégeler justement à partir de la réunification, sous l'influence des événements économiques et sociaux et de la déshérence politique, intellectuelle, culturelle, en termes de culture politique, de cette population. Et de fait, on se rend compte que les mouvements puissants de l'extrême droite allemande sont à l'Est actuellement, alors qu'à l'Ouest, et là, Nelle Wismann avait raison d'insister là-dessus, cette extrême droite est plus intégrée, au fond, plus digérée dans les partis traditionnels. Il y a une aile de droite de la CDU qui est très, 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 très à droite, sans même parler de la CSU. Ajoutez à ça en plus l'AFD, qui est très présent à l'Ouest également. Donc effectivement, il ne faut absolument pas stigmatiser l'Est, loin de moi cette idée-là. Mais par contre, voir qu'en termes de logique historique, il y a eu un permafrost politique, ça c'est clair.
Nathalie Versieux, quelle est l'approche que peut avoir l'AFD, donc Alternative für Deutschland, par rapport justement au passé fasciste, au passé nazi? Est-ce que c'est quelque chose qui est considéré comme appartenant définitivement au passé? Est-ce qu'il y a la tentation peut-être de minimiser ce qui a été fait? Est-ce qu'il joue en tout cas de ce passé? Ou bien est-ce que c'est vraiment une page qui a été tournée avec l'idée de se confronter à d'autres problèmes aujourd'hui qui seraient l'antisémitisme, mais la question de l'islam et des migrants?
Alors en fait, il me semble que l'AFD, avec les différents dirigeants qu'elle a, elle couvre un petit peu tous les domaines de l'extrême droite. Il va y avoir des dirigeants qui vont comme Björn Höcke, qui vont avoir des discours provocateurs, antisémites, qu'il a énormément choqué, par exemple lorsqu'il a reproché à Berlin d'être la seule capitale à avoir un mausolée en plein milieu de son centre-ville. C'était une allusion au monument de l'Holocauste. Donc il va y avoir ce genre de dirigeants, et puis il va y avoir d'autres dirigeants comme peut-être Alice Weidel, qui elle est clairement anti-islam. C'est une femme qui expliquait un jour dans une interview que quand elle se lève le matin, la première chose qu'elle fait, c'est de prendre son téléphone portable et de taper sur Google étranger et couteau. Et tous les jours arrivent de nouvelles informations concernant les étrangers et les couteaux, et ça nourrit son discours politique à longueur de journée. Donc il y a vraiment une vaste palette, je dirais, de personnes qui semblent presque fréquentables pour d'autres partis, et puis des horribles proches des néo-nazis comme Björn Höcke toujours, qui lui a vraiment des contacts avec les camaraderies d'ex-RDA qui sont des personnes dangereuses, qui sont même, il y a tout un discours à l'heure actuelle où on se demande s'il faut que l'AFD soit surveillée par les services de protection de la Constitution.
Pour autant, est-ce que ces inquiétudes, elles relèvent d'une crainte de voir les néo-nazis justement prendre de l'ampleur? Il y a quand même des indices qui laissent penser que c'était plutôt non, c'est-à-dire cette crainte, elle ne porte pas là-dessus. juste deux éléments. Janvier dernier, la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe rejette, elle l'a fait à plusieurs reprises, hein, la demande d'interdiction du NPD, le Parti National Démocratique, parti néo-nazi, en disant ceci, il n'y a actuellement pas d'éléments concrets de poids, laissant penser que l'action de ce parti puisse être couronnée de succès. Mm-hmm. Donc en gros, il n'y a pas de réel danger. Et puis alors, quelque chose qui est peut-être plus anecdotique, mais je ne sais pas, vous allez me le dire, il y a un jeu vidéo qui vient d'être commercialisé en Allemagne, Through the Darkest of Times, à travers la pénombre des temps, je sais pas comment exactement il faut le traduire, dans lequel on voit un héros qui se bat contre les nazis, mais on voit des saluts nazis, des croix gammées, on voit Hitler nommé par son nom. Moi, j'ai appris en lisant l'article qui en parlait que jusqu'à présent, ça n'était pas autorisé. Est-ce que ça veut dire, en tout cas, il y a cette crainte-là qui n'existe plus véritablement dans la société allemande? En tout cas, l'extrême droite pose d'autres problèmes que celui d'un retour du nazisme, Johann Chapoutot.
Ah oui, très clairement. Quand Nathalie Versieux parlait de ce leader de l'AFD qui blâmait la présence du monument à la Shoah au cœur de Berlin, ça c'est un très vieux débat. Est-ce que l'Allemagne doit s'infliger au cœur de sa capitale une cicatrice béante? Est-ce qu'elle doit rappeler ainsi son infamie? Est-ce qu'il ne faut pas au contraire voir l'avenir? Ça c'est très clair. Et il y a dans la droite allemande, depuis des décennies déjà, ce discours récurrent qui consiste à dire « arrêtez de nous ressasser de vieilles histoires ». Et l'espace et le temps de la droite extrême allemande sont différents de l'espace et du temps de la droite extrême française. En Allemagne, la géopolitique est différente. L'Allemagne se considère, depuis très longtemps, comme le centre de l'Europe, un peu ouvert à tous les vents, un peu menacé de tous les azimuts, hein, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, avec une indéfinition des frontières, une indéfinition de l'identité allemande, et une des manières de réintégrer le nazisme dans l'histoire allemande et dans l'histoire européenne, consiste à dire, ça c'est un discours apologétique qu'on entend à l'extrême droite, consiste à dire le nazisme nous a sauvés du bolchevisme. Le nazisme nous a sauvés du communisme, du stalinisme, de la peste et de la steppe asiatique. Voilà. Et cette idée-là est encore très présente dans l'extrême droite allemande, comme elle est présente désormais dans l'extrême droite russe et dans l'extrême droite scandinave, confère Breivik par exemple. Le centre, le barycentre de l'Occident, c'est l'Allemagne, c'est l'Europe du Nord, et c'est ce qui va nous sauver, nous, c'est-à-dire l'Occident, de l'assaut non plus du Grand Est, judéo-bolchevique, mais du sud musulman qui va déferler sur l'Europe. C'était le discours de Breivik, et c'est un discours qu'on peut lire en filigrane très clairement dans l'AFD. Je pense qu'il est très important de resituer à la fois géographiquement et historiquement ou temporellement cette extrême droite allemande pour en comprendre les spécificités et puis la force aussi.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
L'Allemagne est-elle démunie face à l'extrême droite? C'est le sujet du soir dans Du grain à moudre, en compagnie de l'historien Johann Chapoutot, de la journaliste Nathalie Versieux qui se trouve à Berlin, et de Nelle Wiesmann qui est chercheuse associée à l'Institut français des relations internationales. Alors on a essayé de caractériser un petit peu ce que représentait cette extrême droite, ou peut-être ces extrêmes droites d'ailleurs aujourd'hui en Allemagne, que ce soit à l'Est et à l'Ouest. Reste à savoir quelle réponse peut être apportée aujourd'hui. Pour apporter une réponse, Nelle Wiesmann, il faut aussi peut-être avoir une bonne appréciation de ce que cela représente. Est-ce que cette montée de la xénophobie, cette montée du racisme a été sous-estimée par les politiques en se disant peut-être en Allemagne, quand même, après ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, on est relativement immunisé par ce danger?
Il y a effectivement, on avait l'impression qu'avec tout le travail qu'on a fait sur le passé, que ce soit justement le nazisme ou la Stasi, donc la RDA, on a fait un bon travail. Et donc, d'une certaine manière, on pensait qu'on est complètement vacciné. C'est notamment à partir de 2015, justement, au moment où les attaques contre le centre d'accueil de réfugiés explosent. Donc, à un moment donné, on a quand même autour de 2500 attaques contre des réfugiés ou contre le centre d'accueil. Aujourd'hui, c'est en baisse, mais quand même, ça reste un nombre assez important avec 700 attaques pour le premier semestre 2018. On a effectivement sous-estimé cela.
Et je pense ça s'est traduit notamment dans une affaire, je ne sais pas si vous pouvez nous en parler, la cellule néo-nazie NSU, clandestinité nationale socialiste, ça c'est pour la traduction.
Tout à fait. Je pense que c'était un
vous pouvez peut-être nous expliquer ce que c'était justement cette cellule.
Alors il s'agit donc d'un groupement souterrain en fait. Là effectivement, je pense que c'est le moment où l'Allemagne se réveille, où justement les hommes politiques se réveillent. Après, il y avait plein de commissions parlementaires, que ce soit à l'échelle fédérale ou à l'échelle régionale. Parce qu'entre 2000 et 2006, il y avait plusieurs personnes, migrants, turcs, grecs, qui se sont fait tuer. Donc, tout au début, donc justement, la police ne creuse pas du tout la question. Est-ce que ça pourrait être des attaques xénophobes? Est-ce que ça pourrait être des attaques, des attentats, en fait? Justement, on pense que c'est des crimes d'honneur. Parce que, voilà, c'est des migrants, donc forcément, c'est des crimes d'honneur.
C'est interne à la communauté, quoi. Si c'est des Turcs qui sont tués, c'est parce que c'est des Turcs qui les ont tués.
Et justement, là, la question qui se pose, c'est justement, est-ce qu'au sein de la police, justement, il n'y a pas aussi des personnes qui, justement, qui sont d'une certaine manière xénophobes? Parce qu'on n'a jamais creusé cette piste-là. Et c'est au moment où, justement, enfin, en gros, c'est trois personnes qui sont responsables. Deux personnes se suicident, en fait. Et il y a un incendie, justement, de leur appartement. On retrouve les armes. Et justement, le procès qui vient d'avoir lieu de la dernière personne, Beate Zepchen, qui a justement survécu.
Qui a été condamnée à la perpétuité.
À la perpétuité quand même. Voilà, a révélé justement qu'il y avait pendant plusieurs années justement cette, comment dirais-je, enfin, on ne s'est pas rendu compte justement qu'il peut y avoir des groupements qui commettent justement des attaques terroristes.
Nathalie Versieux, dans un de vos articles que je cite à nouveau, hein, puisque vous écrivez, je le rappelle, pour le journal suisse Le Temps, vous dites ceci, la classe politique semble enfin se saisir du dossier de l'extrême droite.
Oui, alors c'est vrai que jusqu'à présent, il y a eu un certain aveuglement. La classe politique se réveille, mais il y a quand même des partis de l'Allemagne, et là, encore une fois, de l'Allemagne de l'Est, où l'État semble avoir complètement abandonné des territoires à l'extrême droite. Il y a vraiment des petits villages reculés de l'ex-RDA, où ce sont des personnes qui sont proches de l'extrême droite, qui tiennent la bibliothèque, qui organisent des activités pour les enfants l'après-midi, et là l'État est vraiment déficient. Ça c'est quelque chose qui est, et là je ne vois pas qu'il y ait de réaction. Les personnes qui s'occupent de déradicalisation continuent de dire l'État fait trop peu, les politiciens font trop peu. Il y aurait besoin que l'ensemble de la société se secoue et proteste et fasse quelque chose contre l'extrême droite. Alors ça, pour ça, j'ai trouvé que hier, il y avait quand même un signe encourageant avec ce concert qui a été organisé à Chemnitz, qui est quand même une petite ville de 250 000 habitants, où 65 000 personnes sont venues, ont participé à ce concert pour protester contre l'extrême droite et signaler que ben, nous aussi, on est là. Il n'y a pas que des nazis dans cette ville.
Voilà, je disais, moi, en ouverture de l'émission, 50 000. C'est vrai que voilà, sur d'autres agences de presse, on a pu voir ce chiffre de 65 000. Plusieurs dizaines de milliers, ça c'est assez manifestement assez certain. Nelle Wiesmann.
Oui, donc justement, vous venez de parler aussi de l'interdiction ou la procédure d'interdiction contre les MPD. Ça a échoué deux fois en fait. Donc il y avait une première procédure qui a échoué parce qu'il y avait justement des personnes infiltrées. On ne savait pas trop distinguer les paroles de personnes infiltrées et des vraies personnes sur place. Et après, finalement, la dernière procédure qui a échoué parce qu'on se dit finalement, les MPD peut-être c'est pas actuellement le vrai problème. Il y a d'autres problèmes, des groupements qui sont là, et finalement la MPD aujourd'hui, qui est encore représentée avec un siège au Parlement européen, c'est pas le problème de l'extrême droite aujourd'hui en Allemagne. Donc c'est deux pistes, je dirais, qui sont creusées actuellement en Allemagne. C'est, est-ce qu'on interdit tout ce qui est groupement de néo-nazis en Allemagne? Déjà, c'est difficile parce que quand on interdit, ils vont se réformer quelque part, notamment aujourd'hui avec Internet, c'est très facile. Et si on interdit notamment, et ça c'est justement l'Office fédéral de la protection de la Constitution qui dit ça, si on interdit, si justement tout se passe plutôt sur Internet, c'est extrêmement difficile d'observer et de voir si justement il y a encore quelque chose comme la NSU Venus U qui va se passer. Deuxième piste, c'est justement mettre plus de budget pour, le journaliste vient d'en parler, plus de budget justement pour les initiatives, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on critique, c'est justement c'est des petits budgets à court terme pour donner de l'argent à une association qui fait la déradicalisation, qui essaye justement de parler avec les jeunes. Donc, est-ce qu'on met plus de budget? Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé en Allemagne la recette miracle pour justement combattre ce problème.
Pendant longtemps, Joanne Chapoteau, en France, pour tenter de contrer la montée de l'extrême droite, il y avait l'idée de créer des fonds républicains, des fronts républicains. L'idée, c'était voilà que quand un candidat de la droite ou de la gauche était éliminé d'un scrutin, il appelait forcément à voter contre son adversaire pour faire barrage à l'extrême droite. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner en Allemagne? Est-ce que c'est en mise en œuvre de cette manière-là?
Ça fonctionne depuis la République de Weimar, en l'occurrence. Ça s'appelle la Grande Coalition. La Grande Coalition, c'est quelque chose qui ne date pas des années 1960, mais ça date des années 1920. Dès les années 1920, on voit le SPD gouverner avec des partis de la droite, bourgeoise. Alors, il y a une culture politique du consensus, du compromis, la discussion, du dialogue. Tout ça est bien connu. Ça a un petit effet pervers, c'est que lorsque vous avez une Grande Coalition à une majorité de 75% à l'Assemblée, forcément, l'opposition se fait moins entendre. Et il y a une tentation d'une opposition extra-parlementaire, une opposition dans la rue ou une opposition par des mouvements qui contournent ce mastodonte, ce monolithe de la Grande Coalition, et ça profite de fait à l'extrême droite.
Parce que pour un certain nombre d'électeurs, j'imagine de se dire que je vote pour les sociaux-démocrates, les chrétiens-démocrates, de toute manière ils seront au pouvoir. Ça a favorisé l'abstention, et d'ailleurs manifestement il y a beaucoup d'anciens abstentionnistes qui se retrouvent aujourd'hui dans le vote pour l'AFD.
Oui, et puis il y a un désespoir notamment du côté des électeurs du SPD. D'ailleurs, le SPD, l'électorat du SPD fond comme neige au soleil pour cette raison-là. Et ça aboutit à un consensus politique, notamment de politique économique, qui a des conséquences sur le terrain. Il y a un néologisme en allemand que je trouve intéressant, c'est « sich kaputt sparen », c'est-à-dire se détruire par l'économie, se détruire par l'austérité. De fait, on se rend compte que les services publics dans de vastes régions, y compris jusqu'à Berlin même, je l'ai vécu moi-même avec des structures déficientes, à Berlin pour accueillir les gens, l'austérité détruit parce que l'austérité aboutit au retrait de l'État, et on se rend compte que des missions de service public sont de fait accaparées par ceux qui sont disponibles et qui sont volontaires pour le faire, c'est-à-dire une extrême droite qui, soucieuse non seulement de réinformer, comme on dit sur Internet, veut également recoloniser les territoires en installant des fermes. Donc c'est cette vieille idéologie du Blut und Boden, du sang et du sol, qui se manifeste par le réinvestissement de villages entiers par l'extrême droite qui, de fait, se substitue à l'État.
Oui, mais Joanne Chapoteau, vous avez un parti à gauche, Die Linke, on pourrait le comparer par exemple à la France insoumise, qui dénonce aussi l'austérité. Pourquoi est-ce que ce discours-là de gauche porte moins? Est-ce que c'est parce qu'il ne s'accompagne pas justement de cette idée d'une recolonisation? Je ne sais plus quel est précisément le terme que vous avez utilisé il y a un instant.
Oui, j'utilisais le terme de recolonisation parce que l'extrême droite parle de Siedlung, de Ansiedlung, le fait de s'installer, de coloniser la terre. Non, mais Die Linke marche dans certains endroits. Le gouvernement de Thuringe, par exemple, aujourd'hui, est un gouvernement Die Linke. Bodo Ramelow est un membre de Die Linke. Bon, il reste que, effectivement, l'extrême droite est peut-être, dans le contexte actuel, plus porteuse d'une forme d'utopie en fait, en réalité de dystopie, qui parle peut-être plus que des principes d'appel à la générosité, à l'universalité, dans certains contextes, ça c'est certain.
Alors Nathalie Versieux, il y a une figure de Die Linke, Sarah Wagenknecht, qui vient de lancer, c'était aujourd'hui, ce mardi, le mouvement Aufstehen, qui veut dire debout, et qu'on présente beaucoup, alors dans les articles que j'ai pu lire ici en France, comme un mouvement de gauche qui reprend les thématiques anti-migrants. D'abord, est-ce que c'est comme ça que c'est perçu en Allemagne, et comment est-ce qu'on peut comprendre cette stratégie, même si elle semble assez claire, qui est d'aller chercher finalement les électeurs qui sont partis du côté de l'extrême droite?
Oui, alors bon, Sarah Wagenknecht, ce qu'elle a dit, notamment au dernier congrès de son parti, c'était il faut que nous, le Die Linke, on arrête de répéter, on ouvre les frontières à tous ceux qui veulent venir en Allemagne. Donc c'était essentiellement ça qu'on lui a énormément reproché, mais qui semble, au vu des sondages, de l'état de l'opinion allemande, etc., ça semble inévitable pour un parti politique de franchir ce pas. Un parti politique qui continuerait à prétendre que tous ceux qui veulent venir en Allemagne doivent pouvoir y venir, c'est du suicide dans l'état actuel de l'opinion. Donc bon, c'est ce qu'elle a dit, on lui a beaucoup reproché, on lui a reproché de courir après les voix de l'extrême droite. Il faut quand même voir qu'elle n'a jamais dit qu'il fallait mettre fin au droit d'asile. Elle ne prend pas de position contre l'islam comme le fait l'AFD. Et puis, elle ne demande pas non plus à ce qu'il y ait davantage d'expulsions, ce que fait l'AFD. Donc son discours est quand même beaucoup plus nuancé. Et puis aujourd'hui, cette partie sur la critique des migrations était quand même peu présente dans la conférence de presse qu'elle a donnée pour présenter son mouvement. C'était pas la préoccupation principale. Ce que dit son mari, Oscar Lafontaine, qui est donc un des fondateurs de Die Linke et un déçu du Parti social-démocrate.
Grande figure de la politique allemande, hein,
voilà,
Lafontaine.
Voilà, oui, c'est ça. Un ancien ministre de Gerhard Schröder. Et donc, lui dit, on a perdu des électeurs et il faut qu'on se réveille. Il faut se demander où ils sont partis, pourquoi nos électeurs sont partis en partie vers l'AFD et qu'est-ce qu'on doit changer dans notre discours pour regagner la confiance des électeurs.
Nelle Wiesmann.
Oui. Alors, je pense justement, il faut un peu nuancer. Donc, justement, au sein de la Linke, il n'y a pas tout le monde qui tient ce discours de Sarah Wagenknecht qui se fait fortement critiquer. Après, on peut aussi se poser la question. Enfin, elle ne dit pas qu'il faut maintenant renvoyer tout le monde.
Justement,
si ce n'est pas d'une certaine manière, comment dirais-je, une normalisation du programme politique, entre guillemets, de la Linke, comme on l'a vu d'ailleurs avec Die Grünen, avec les Verts, qui aujourd'hui aussi, qui ont certainement aussi un discours encore qui diverge complètement avec les chrétiens démocrates, mais qui aujourd'hui disent aussi, voilà, on n'accueille plus tout le monde, on doit aussi regarder qui on peut encore accueillir et qu'on ne peut plus accueillir tous les migrants économiques qui se présentent éventuellement aux frontières, etc. Donc on peut aussi se poser cette question-là.
Joanne Chapoutot, au-delà des raisons conjoncturelles, comment se fait-il que l'immigration, les réfugiés, peut-être au-delà même l'identité, je ne sais pas si c'est un terme qu'on peut utiliser s'agissant de l'Allemagne, mais ça a devenu à ce point central dans le débat politique dans ce pays?
La réflexion sur l'identité, elle est structurelle pour le coup. Elle est fondamentale depuis deux siècles. Depuis le moment où, au fond, la Prusse, grande puissance dominante de l'espace allemand, a été battue très sèchement par l'Empire français en 1806. Et depuis ce moment, ont été importés en Allemagne, via les intellectuels, admirateurs de la France et de la Révolution française, des notions françaises, comme celle de la nation, par exemple, qui ont fortement travaillé le 19e siècle allemand. Alors, la nation ne s'est pas faite au 19e siècle. Elle s'est faite très tardivement en 1871, mais de manière incomplète. La solution petite allemande, voulue par Bismarck de manière très pragmatique, parce que les Autrichiens, l'Empire autrichien n'en voulait pas. Et cette question-là de l'identité allemande est fondamentale et structurelle depuis cette époque-là. Elle a trouvé une réponse absolument atroce, criminelle et monstrueuse avec le nazisme, qui, de manière très conséquente, a défini l'être allemand comme étant un être biologique qui devait dès lors recouvrir tout l'espace où se trouvaient des Allemands, voire au-delà, pour nourrir la race germanique. Bon, alors après 1945, il n'a plus du tout été question de cela.
Mais justement, aujourd'hui, est-ce qu'on peut débattre de l'identité nationale comme on a tenté de le faire en France il y a quelques années?
Alors, de fait, les débats sur le Leitbild, sur la culture dominante ou sur la culture à adopter, tout cela est permanent en Allemagne. On en a discuté évidemment au moment des décisions d'Angela Merkel il y a 3 ans. On en a discuté à propos de l'équipe d'Allemagne de football, de manière heureuse en 2014 au moment du triomphe. Lors de la Coupe du Monde, de manière plus malheureuse ces derniers temps avec la démission fracassante de ce joueur d'origine turque qui a décidé de quitter l'équipe nationale puisqu'il avait été blâmé pour avoir posé sur une photo aux côtés du président turc. Bref, Ces débats-là sont constants. Par contre, ils sont encadrés par, effectivement, certains principes, certains tabous. Et pour revenir à la question de votre émission, hein, l'Allemagne est-elle démunie face à l'extrême droite? Non, elle ne l'est pas. Et elle l'est sans doute beaucoup moins que d'autres pays, pour des raisons juridiques, pour des raisons constitutionnelles, et parce que, par ailleurs, cette constitution, qui est très claire en Allemagne, est dotée de moyens. On parle du Verfassungsschutz, hein, de la protection de la constitution. Ce sont des organes qui sont efficaces en Allemagne.
Et on verra comment ces organes résistent plus ou moins bien lors des prochaines élections. Élections régionales en Bavière et en Hesse, ce sera le mois prochain, puis à suivre également l'été prochain, été 2019, dans le Länder de Saxe. La ville de Chemnitz est dans cet état de la Saxe. Merci beaucoup à tous les trois, Joanne Chapoutot, Nathalie Versieux et Nelle Wiesmann, d'avoir participé à cette discussion que vous pouvez réécouter et télécharger sur notre site franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Tricot, Fanny Richer, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Guillaume Laguigné. Émission réalisée par Alexandre Fougeron, avec à la prise de son Élise Le. Arnaud Laporte, la dispute dans 3 minutes, ce sera à vous.
Il sera question de musique ce soir. Est-ce que vous allez écouter en rentrant chez vous ce soir? Vous allez nous écouter?
Oui, quand je prends le métro, moi je vous écoute tous les soirs. Voilà.
Ouais. Ça capte bien partout ou pas?
Sauf dans les tunnels. Mais j'ai la chance de passer par le métro aérien. Voilà, ça est tout sur ma vie.
Ouais, et vous me direz à quelle station vous descendrez. La prochaine fois, vous allez nous dire peut-être la question de Grain à Moudre de demain d'abord.
Bon, on va pas parler de métro, mais de ponts et de chaussées, à qui les confier? Voilà.
Je cherche une contrepèterie, mais on verra ça plus tard. 19h, les titres de l'actualité avec Aurélie Kiefer.